Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui, brillante étudiante, démarre une belle carrière d'ingénieure. Elle se donne très vite à fond, se fait remarquer par ses supérieurs et gagne leur confiance. Arrive la maternité et elle réalise à quel point son rôle de mère lui importe beaucoup plus qu'une carrière. Elle décide de se retirer du salariat, met au monde son bébé et plonge corps et âme dans la maternité et ses questionnements.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Abla Wakrim, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va Abla?
Très bien, merci beaucoup à vous de m'avoir invité, j'en suis très flattée.
Le prénom de ma fille, de la cadette.
Ça me flatte, ça aussi.
Berlik. Alors Abla, justement, vous êtes une jeune maman, à votre tour, et la maternité vous a fait vous poser beaucoup de questions, Yek?
Absolument, oui, énormément de questions. À la base, donc oui, comme vous dites, je suis maman et reconvertie de l'infinie d'ingénieur qui exerçait dans des projets, dans l'industrie, l'infrastructure, etc. Pardon. Et la maternité m'a fait faire un switch entre cette ancienne vie, pas si lointaine que ça, et la nouvelle que j'ai adoptée.
Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé quand c'est pendant la grossesse que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre cheminement, sur votre vie?
Absolument.
Ou bien c'est quand bébé est arrivé?
Non, c'était pratiquement au début de la grossesse. Ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste dans son travail. D'ailleurs, là où je travaillais, je me suis assez vite attirée les bonnes grâces de mon management et j'ai tout de suite été propulsée sur certains sujets qui étaient quand même assez délicats et sur lesquels j'étais vraiment à fond pendant pas une journée de travail normale. C'était pour moi du 8h-23h. Voilà, c'était
D'accord.
des journées de travail extrêmement denses, extrêmement...
8h-23h, elle est chez elle, pourquoi
c'est
autant?
C'est pas exigé, mais c'était moi qui le faisais, parce que je voulais absolument tout parfaire, tout couvrir. J'étais dans des chantiers, dans d'autres villes, on était sur des projets qui étaient relativement sensibles.
Mais est-ce que vous aimiez ce rythme-là? Vous étiez à l'aise dans ce rythme?
Sur le moment, il y avait de l'adrénaline. Il y avait de la reconnaissance de l'entreprise aussi. Il y avait des choses qui faisaient que j'aimais sur le moment certains aspects de ce rythme-là. Mais de manière générale, non. C'est justement ça qui a déclenché les questions. C'est que je me suis dit, vu la manière, le perfectionnisme avec lequel je travaille, et vu le caractère qui est le mien, c'est-à-dire moi, je n'arrive pas à me passionner pour deux choses en même temps. J'ai toujours été comme ça. J'ai des phases dans la vie où je me passionne pour une seule chose.
Et vous vous donnez à fond.
Mettre à fond. Exactement. Et je me suis dit, la maternité, c'est aussi quelque chose dont on se passionne. On se passionne de ses enfants, on se passionne de les voir acquérir de nouvelles compétences, évoluer, etc., leur offrir un cadre favorable à cet apprentissage. Et moi, j'ai senti, dès le début de la grossesse, j'ai commencé à avoir ce signal d'alarme dans ma tête qui me dit, attention, tu ne vas pas réussir à faire les deux à fond et tu vas être insatisfaite, soit de ton rendement au travail, soit de ton rendement en tant que maman. Et il a fallu commencer à faire des choix. Et surtout, quand j'ai commencé au début de la grossesse à faire les lectures classiques et regarder les chaînes YouTube classiques que toutes les mamans vont regarder pour apprendre comment on change la couche, etc. Je creusais beaucoup et j'ai commencé à me passionner pour ce domaine-là et à me dire peut-être que je m'épanouirais mieux à non seulement être maman, mais faire des choses autour de ce nouveau job de maman. Faire des choses
mais,
autour de...
Pardon, Abla, en fait, quand vous racontez, on a l'impression que c'est très simple. Mais j'imagine que c'était pas aussi simple que ça. Pourquoi je dis ça?
Non, pas du tout. C'est révolutionnaire.
Hein. C'est révolutionnaire. Mais voilà, parce que...
Pour ma mère, je lui dis, je demi seule, elle me dit, ça va pas.
Parce que justement, quand on s'engage autant, quand on se donne autant, quand on travaille de 8h du matin à 23h, on travaille sans compter, et puis un jour, on change complètement de cap pour s'intéresser à la maternité et vivre pleinement sa maternité... Je pense que c'est un tsunami pour son entourage et pour soi-même aussi, enfin, je pense.
Absolument, c'était le cas. J'ai pas prévenu ma mère que j'avais démissionné, que après plusieurs semaines. tellement effectivement ça va être un tsunami. quand on passe sa vie à être première de sa classe, on a son petit diplôme d'ingénieur, on est content. Après dire oh voilà je décroche. Non, ça chamboule un peu les choses. Mais honnêtement, j'ai essayé de leur présenter les choses d'une manière réfléchie, élaborée.
Mais c'est bien parce que vous avez pu trouver cette indépendance morale de prendre votre décision, même si c'était compliqué pour vous, oui, de leur dire. Mais au fond, vous avez été très indépendante moralement.
Oui, absolument, oui. C'était, bien sûr, ça ne se construit pas du jour au lendemain. C'était déjà au moment où, avant même de tomber enceinte, il y a quelque chose aussi qui m'a fait faire un déclic, c'est qu'on avait déménagé avec mon mari beaucoup plus loin que là où j'habitais au début, et du coup j'avais des trajets très lents. Et sur ces trajets, sur la rocade urbaine de Casablanca, je ne vous dis pas le dégoût quotidien que j'ai ressenti à devoir faire cet embouteillage quotidien et me dire, non mais imagine que j'ai des enfants qui m'attendent au bout du chemin, et que j'ai une heure de moins à passer avec eux parce qu'il y a un camion qui conduit si mal qu'il est rentré dans je sais pas quoi et que maintenant on est tous bloqués.
Exact.
Et c'est ce genre d'incident quotidien qui a un petit peu commencé à construire cette réflexion.
Mais c'est bien en fait d'avoir anticipé à toutes ces choses-là parce que beaucoup de jeunes parents et de jeunes mamans se retrouvent confrontés à ce que vous avez anticipé une fois dedans.
Oui.
Il y a le stress des petits. Il y a des fois, ils ont mal dormi. Des fois, ils ont fait une fièvre subite. Des fois, et on en passe. Et donc, à un moment, vous avez dit, ça fait, moi, j'arrête avant l'arrivée de ce petit. Je me suis donnée à fond dans ma carrière. J'imagine que ça ne faisait pas trop longtemps que vous travaillez. Ça faisait 5 ans.
Quelques années.
Voilà,
exactement.
Et se dire, bon, ça fait. J'ai fait le tour ou ça ne me suffit plus, ça ne me nourrit plus, ce n'est pas ça que je veux.
C'est un peu ça. Je me suis dit, j'ai vu vraiment... Heureusement, j'étais dans une entreprise qui m'a vraiment donné l'opportunité de voir énormément de choses. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir fait le tour. Et du coup, je me disais... parce que même dans la position où j'étais, je ne voyais pas seulement mon cadre professionnel, mais j'étais en contact avec des clients, avec des fournisseurs. Du coup, à travers eux, je voyais différents cadres professionnels. Et je voyais un petit peu les vies de tout le monde. Et je me suis dit, voilà. Donc, j'ai vu tout ça. Et j'ai vu des amis qui ont eu des enfants avant moi, qui ont effectivement eu les difficultés que vous venez de décrire, qui ne se rendent compte de tout ça que sur le tas. Et là, je me suis dit, je pourrais non seulement m'épanouir à me concentrer sur mon rôle de maman, mais aussi peut-être à essayer de construire quelque chose sur la base de ce rôle et ne pas sentir un écart entre les sujets sur lesquels je travaille et mes sujets à traiter en tant que maman. Et c'est là que j'ai créé la page notamment que j'ai sur Instagram qui est Parenthood.
Alors justement, quand on est une ingénieure hyperactive, qu'on se retrouve maman à s'occuper des histoires de maternité, est-ce qu'on a l'impression qu'on est descendu de plusieurs crans intellectuellement ou c'est pas un problème ? C'est pas du tout. Alors, la question se pose pas.
Si, ça dérange que cette nouvelle léthargie du cerveau, un plan, ça dérange beaucoup. Et du coup, effectivement, j'avais besoin de lancer quelque chose. J'avais besoin d'aller creuser dans des sujets plus que ce que le commun des gens ferait peut-être. Par exemple, je vais trouver une information où je vais passer en scrollant sur Instagram, je vais voir un post qui dit « Attention, la tétine va causer telle catastrophe sur l'enfant si jamais on le dit. » Moi, j'ai besoin de vérifier ça. Alors, je vais creuser, chercher des sources académiques, pas le premier site qui remonte sur Google. Et à un moment donné, cette façon de faire, je me suis dit « Tiens, je devrais partager. » Si j'ai réussi à extraire une information plus filtrée, aujourd'hui, j'ai envie de la partager. Et j'ai commencé ce travail de partage qui m'a aussi motivée à continuer à m'instruire et à évoquer des sujets divers, mais qui touchent tous à cette sphère de la parentalité.
D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez eu du retour d'autres parents ? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans votre page ?
Alors vraiment, j'ai des échanges magnifiques au quotidien avec des parents. Sur la page, on va évoquer des sujets qui relèvent déjà des basiques de la parentalité que beaucoup de nouveaux parents cherchent à connaître, mais de manière des sujets plus élaborés. On va parler par exemple de manière critique de choses qui sont en phase de devenir des normes. Je prends un exemple. Aujourd'hui, personne ne se permettrait de critiquer l'éducation positive parce que justement, c'est positif. Et c'est pour ça que c'est devenu une quasi-norme aujourd'hui. Mais cela dit, sur ma page par exemple, on va pouvoir dire, attention, il y a des sources, il y a des auteurs, Il y a des gens qui vont venir faire plus dans la culpabilisation que dans l'éducation positive, la culpabilisation des parents. Et là, on va citer des exemples dans lesquels on va trouver des extrapolations d'études faites, par exemple, sur des enfants maltraités, négligés de manière grave. On va extrapoler les résultats des études sur des enfants, par exemple, qu'on a laissé pleurer 2 minutes. Et là, on va dire, attention, parents, oui, il faut absolument être positif dans son éducation, mais ne culpabilisez pas si vous êtes dépassé à un instant donné. Si vous sentez que vous ne faites pas toutes les choses à la perfection, il y a un idéal de la parentalité qui est en train de se construire sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. Tout le monde essaie de se rapprocher de cet idéal, mais attention, il y a une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre relativement à votre contexte personnel, financier, culturel, etc. Tant que vous comprenez les grands principes, vous les adaptez à votre vie, ne culpabilisez pas pour des détails.
Aujourd'hui, justement, votre génération de parents, elle culpabilise beaucoup. Vous êtes une jeune trentenaire.
Oui.
Est-ce que il y a trop de culpabilité ? À un moment, c'était la génération des parents qui ont fait les enfants rois. Voilà, les enfants à qui on dit jamais non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non ou pas ?
Moi, je dis non quand ça touche à la sécurité, quand ça touche à des choses où il faut agir immédiatement. Quand c'est des choses qui sont négociables, là, j'explique. Moi, j'essaie de faire à fond dans l'explication.
Okay.
Parfois,
vous dites, mais on a le khatar de l'explication, Abla ?
Justement, pas toujours. Et c'est pour ça que sur la page, je dis, voilà, des fois, on a des instants où on est dépassé. Mais tant qu'on sait, après, discuter avec son enfant, lui dire tout à l'heure, j'étais en colère, parce que voilà, tu as vu, j'étais en train de faire ceci et cela, maintenant, je regrette, j'aurais dû plutôt te dire, voilà, tu ne devrais pas faire ça parce que ça pose tel problème. Tu comprends ? Oui, voilà. Maintenant, mon fils n'a pas encore tout à fait l'âge pour comprendre ce genre de discours, mais j'en fais encore la version la plus basique.
Ouais, je comprends. Alors, arrivée de bébé, est-ce qu'il y a eu ce petit fameux baby blues ?
Baby blues, plutôt, moi, c'était plutôt l'allaitement qui s'était très mal passé. Et donc, moi, toutes mes difficultés postpartum, c'était autour du sujet de l'allaitement. Donc voilà, ça, c'est une autre histoire.
Parce qu'on vous a mis trop de pression, pas vous, pas, je veux dire, pas la famille proche, j'imagine, mais les réseaux sociaux, Internet, etc.
Absolument, absolument. Justement, vous vous demandiez à l'instant si les parents culpabilisent beaucoup. Justement, c'est un sujet sur lequel, aujourd'hui, notre génération culpabilise énormément. Moi, j'ai senti à ce moment-là que j'ai frôlé la dépression tellement j'étais déçue du chemin que mon allaitement a pris. Et je connais d'autres mamans qui ont été dans des cas similaires, même si elles se sont formées, entre guillemets, même si elles ont essayé de leur mieux. Mais voilà, on culpabilise beaucoup parce que tout le monde est fier d'arborer le titre de bébé allaité exclusivement jusqu'à 24 mois. Et c'est excellent, c'est génial pour les enfants. Maintenant, il faut aussi toujours, je dis toujours, laisser une marge de manœuvre aux mamans, aux parents. Si tu vas vraiment mal, si tu galères vraiment entre pompage et c'est une traduction de pumping,
oui.
Je veux dire entre tire-allaitement et essayer quand même de continuer à donner les tétés directement, etc. Bref, toute la galère. Si ça va vraiment mal, donne-toi le droit de chercher l'alternative. Et ça ne va tuer personne.
C'est ça, donne-toi le droit, exactement.
Exactement, il faut se donner ce droit parce que les idéaux, ils sont bien. Mais un enfant a d'abord besoin d'une maman qui est heureuse, d'un papa qui... Voilà, une relation entre papa et maman qui est équilibrée.
Épanouie.
Les deux. Exactement, épanouie.
C'est vrai, complètement. En tant que maman, il y a quelques années, je n'ai pas succombé justement à cette tendance de l'allaitement exclusif. Et c'est vrai, quand je disais non, j'allaite pas, on me regardait du coin de l'œil. Mais ça ne me convenait pas et je n'avais pas honte de le dire.
Oui, oui. Il faut savoir que les gens, c'est des contextes différents. On essaye de fournir un mode de vie healthy à ses enfants, mais le sain, je veux dire S-A-I-N, c'est-à-dire ce qui est sain, c'est pas forcément applicable à absolument tous les aspects de... Je veux dire qu'on ne pourra pas tout couvrir, voilà.
C'est ça.
Il y a des choses qu'on pourra très bien couvrir. On pourra peut-être leur acheter des fruits et légumes bio. On pourra peut-être à notre parent leur offrir beaucoup de temps outdoor, beaucoup de contact de la nature. Un autre parent va être excellent sur l'allaitement. Chacun va réussir sur certains aspects. Et personne ne va tout parfaire. C'est impossible.
Absolument, absolument. Il faut juste ne pas culpabiliser, ne pas céder à cette pression extérieure de voilà comment on peut être un bon parent. Il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de mode d'emploi pour personne.
Exactement. Il y a heureusement une large marge de manœuvre pour éduquer ses enfants d'une manière qui correspond à sa vie, à son contexte personnel.
Alors justement, Abla, est-ce qu'à travers cette page que vous avez sur Instagram, une page consacrée à la parentalité, d'ailleurs ça s'appelle Parenthood, est-ce que vous recevez ce genre de messages, presque des messages de détresse de la part des mamans ?
Absolument, beaucoup. Et certains vraiment me font monter les larmes aux yeux, parce que souvent ce sont des mamans, par exemple dans le cas de l'allaitement, des mamans qui viennent d'avoir des enfants il y a quelques semaines et qui me disent « elle ne prend pas le soin, qu'est-ce que je fais ?» Je n'arrive pas à tirer plus que telle quantité de millilitres. Voilà, c'est des messages de détresse, comme vous dites. Et là, j'essaie de leur dire, voilà, et c'est ceci, c'est cela. Si ça ne marche pas, écoute, il y a toujours l'alternative. Et ça ne va vraiment pas causer de problème tant que vraiment tu es aussi à bout que ça. C'est que tu as mérité le droit de considérer l'alternative.
Moi, ça me dérange quand même quand vous dites, tu as mérité le droit de considérer.
Oui, après... Oui, je comprends. Quand je dis mérité, c'est pas comme si on le prend d'office, ça veut dire qu'on n'a pas mérité.
Ouais.
C'est pas ça. Mais que
tu as fait ton mieux.
En plus d'avoir le choix à la base, de manière neutre et simple, mais en plus tu as tellement fait de ton mieux que là tu devrais y aller à fond.
À fond, exactement. Voilà. Alors, en général, les jeunes mamans d'aujourd'hui, elles se mettent la pression toutes seules ou bien c'est l'entourage, le conjoint, ces groupes sur les réseaux sociaux qui mettent plus de pression? Est-ce que c'est le virtuel qui met la pression ou c'est vraiment l'entourage proche?
Moi, je pense que c'est le virtuel plus que l'entourage proche. Yeah. Moi, je pense que l'entourage, il fait des commentaires parfois gênant, parfois qui mettent de la pression, etc. Mais l'impact du virtuel, parce que justement, c'est pas... On arrive facilement à se dire « Non, ma mère, elle sait pas de quoi elle parle. » On arrive à se dire ça. Par contre, quand tout Instagram et tous les réseaux sociaux sont d'accord sur une seule symphonie, là, on a du mal à se dire « Non, mais ils ont tous tort. Non, mais je peux faire autrement, etc.
» C'est ça, hein, en fait. C'est dangereux parce que, comme vous dites, c'est tout le monde qui entretient le même discours. Et donc, cette jeune maman, qui est quand même vulnérable à ce moment-là, face à une expérience de la vie qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas, c'est vrai que son guide, à ce moment-là, eh bien, il est un peu faux, il n'est pas vrai.
Absolument. Et écoutez, c'est pas seulement le cas sur la parentalité. Généralement, les réseaux sociaux vont nous ériger des modèles. Et aujourd'hui, on voit les études qui sont à l'étranger qui traitent du sujet de la dépression, de l'anxiété, chez les jeunes en particulier, relativement justement à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Si on s'accroche trop à ces modèles, ces idéaux, j'ai envie de dire fictifs, parce que bon, oui, ce sont des idéaux appliqués par certaines personnes, mais dans la plupart des cas, ça va être des personnes qui vont montrer les jours où ils ont réussi, mais pas les jours où ils ont échoué.
Absolument.
Et donc, si on s'accroche trop à ces modèles, on porte atteinte à sa santé mentale.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Des fois, justement, vous avez des mamans qui sont au bout du rouleau?
Oui, franchement, oui. Notamment par rapport aussi au sujet du sommeil. Là encore, j'essaie de proposer des fois des sujets que je reprends dans des sites spécialisés, dans par exemple l'Organisation américaine du sommeil, etc. Le sommeil des bébés, c'est une grande problématique. Donc oui, il y a souvent des parents qui vont venir dire « qu'est-ce que je fais ? Je ne réussis pas le sevrage, etc. » Et là, j'ai des partages en privé, parfois vraiment lents, parfois vraiment élaborés, que les gens ne voient pas en public et que je suis contente d'avoir. Ça a un petit peu remplacé mes échanges quotidiens avec les collègues du travail.
D'accord.
C'est devenu des amis, plus ou moins, de guillemets, sur les réseaux sociaux.
Alors justement, on a tellement parlé de parentalité que j'ai complètement mis de côté votre carrière, ce dont on a parlé au début, qui vous étiez au début. Ça vous manque tout ça, cette adrénaline?
Parfois, oui. Ce qui manque, c'est à un moment donné, c'était surtout le contact humain. Mais comme je vous ai dit, j'arrive de mieux en mieux à le remplacer avec ces échanges, quotidiens. Ce qui me manque aussi, c'est le salaire aussi. Hein.
Je voulais le dire. Après, je me suis dit non, Yasmine, ne sois pas trop direct. Justement, un salaire à la fin du mois, est-ce que ça vous manque?
Oui, c'était bien à voir, mais vous savez quoi, on s'habitue à tout. Ça va très bien comme ça aussi. On s'habitue franchement à tout.
Ouais.
Il y a des choses que je rêvais de faire, que j'ai, alhamdoulilah, le privilège de pouvoir faire aujourd'hui. Comme, voilà, des fois, j'avais une petite playlist sur YouTube où j'enregistrais toutes les recettes que j'avais essayées, que j'essayais jamais.
D'accord.
Pendant des années. Là, j'ai fait et je me dis, waouh. Bon, bien sûr, bon, c'est des petits détails comme ça, mais honnêtement, non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est vraiment le fait d'avoir un idéal de vie quand c'est construit petit à petit pendant quelques années. Cet idéal qui semblait tellement lointain, tellement difficile à atteindre, et de se réveiller un jour et de se dire, je suis dans mon idéal. C'est assez frappant.
Et donc, c'est votre idéal, en fait.
Mon idéal, c'était de pouvoir... Mon idéal des dernières années, c'était de pouvoir être une maman présente, telle que peut-être que je l'ai toujours imaginé, et à la fois pouvoir développer quelque chose autour de ça, comme ma page, comme un autre projet que j'ai lancé tout récemment avec une amie qui consiste en des produits destinés aux enfants, qu'on a fait avec vraiment beaucoup de passion, beaucoup de précision, pour offrir un paradigme alternatif à ce qui se fait sur certains produits dans le marché qui ne sont pas forcément au top.
Super. Un retour vers l'entreprise telle que vous l'avez connue au début de votre carrière, un jour ?
Écoutez, tout est envisageable, mais là, tout de suite, je n'ai pas de raison de le penser.
Ok.
Donc, j'ai lancé un projet, je suis à fond dedans. C'est une aventure entrepreneuriale qui est justement en accord avec tout ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, autour de la petite enfance, je ne sens pas que je suis passionnée par deux choses différentes, puisque j'en suis incapable. Donc, je suis toujours dans un sujet dans lequel je vais à fond et je peux tester des produits sur mon enfant. Et voilà, c'est agréable, c'est excellent.
Super. Ablaoua Karim, merci infiniment pour cet échange honnête et sincère, et justement pour tous ceux qui cherchent des conseils sur la parentalité avec un background scientifique, c'est sur votre page Instagram, ça s'appelle Parenthood.
Parenthood.ema.
Merci beaucoup.
Absolument. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est très gentil, c'était un échange très riche. Merci.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.